Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Des civils pris pour cible, un centre de recherche nucléaire bombardé et un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais. La guerre en Ukraine entre dans son 13e jour. L'Info C'est Clair est intitulé « Poutine, la stratégie de la terreur ». Nos invités, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste international à France Inter, spécialiste des affaires internationales. Général Vincent Desportes, vous avez été commandant de l'école de guerre. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC et co-auteur de « Viser le sommet » aux éditions de Noël, ouvrage qui paraîtra le mois prochain. François Baudonnet, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Et je précise que vous avez été correspondant pour France Télé à Bruxelles. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, les images en tous les cas en attestent. Des civils sont bien pris pour cible. Je vous propose de commencer cette émission en regardant ce reportage terrible à Irpin. C'est à quelques kilomètres de Kiev où les habitants ont été visés par des bombes et des tirs de soldats alors que précisément ils tentaient de fuir les bombardements. Reportage de Sylvain Lequen.
Ce combattant ukrainien assiste à l'évacuation d'Irpin. Au loin, les habitants fuient avec quelques bagages lorsque soudain, un obus de mortier russe s'abat sur la route. Le combattant est emmené dans la panique. De l'autre côté de la rue, des civils sont touchés.
Un médecin ! Un médecin !
Quelques mètres plus loin, des corps jonchent le sol. Une famille et leurs deux enfants ont péri dans l'explosion.
Ils tuent des gens sans raison. Tout cela est tellement dur pour la population. C'est de la folie.
Irpin, à 15 km de Kiev, est pilonnée sans relâche par l'armée russe. C'est la dernière ville stratégique à l'ouest, sur la route de la capitale. Les habitants se précipitent, paniqués, pour échapper au chaos. Entre deux explosions. Se relever et repartir malgré la peur. Fuir la ville coûte que coûte dans un climat de terreur.
Je suis terrifiée. C'est horrible.
Anthony Bélanger, ce qui paraît incroyable, c'est que ce sont des images d'un autre siècle. On n'imaginait pas voir ça en Europe en 2022.
C'est une des raisons pour lesquelles personne n'avait, non pas prévu, mais imaginait même que Vladimir Poutine puisse engager une guerre de cette intensité en Europe. C'est parce que c'est un impensé. Hein. Depuis 1991, depuis 30 ans exactement, on vit sur ce qu'on appelle les dividendes de la paix. L'idée que la guerre est impossible en Europe et que le commerce va remplacer tout ça. Donc ce réveil est brutal. C'est ce qui a entraîné notamment le fait qu'en fait, grosso modo, depuis 30 ans, on a aussi, y compris, ménagé Vladimir Poutine. On nous le reproche assez aujourd'hui, à la fois en admettant ou en discutant avec lui des raisons pour lesquelles il avait annexé l'Ukraine et puis mis ses deux doigts dans le Donbass pour essayer de garder un conflit gelé, ou même fait la guerre en 2008 en Géorgie, ou même, enfin, je pourrais faire des tas d'exemples. Tout semble aujourd'hui être une préparation à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, effectivement, on a clairement l'impression qu'il a préparé pendant des années ce qui était son obsession, qui est la récupération de l'Ukraine. Les terres conquises par Catherine la Grande au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, il veut que l'Empire russe ressemble au moins à celui qu'avait légué Catherine la Grande à ses successeurs, c'est-à-dire le Caucase, la Crimée, la Biélorussie, la Russie, ce qu'elle appelait, elle, la Petite Russie. Pour revenir sur Irpin, il y a une chose très intéressante. On est à 15 km de Kiev. C'est une ville populaire et populeuse, 60 000 habitants. Jusqu'à présent, moins de 2 000 personnes ont réussi à partir. Et pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt des forces attaquantes qui font le siège d'une ville de laisser partir les civils. Les civils, quand ils sont tapés, quand ils sont tués, quand ils sont blessés, encombrent les hôpitaux, encombrent les rues, gênent les combattants de l'intérieur, et y compris quand ce sont des habitants qui ont eux-mêmes pris les armes, ce sont les leurs qui sont en train, leurs voisins, leurs amis, éventuellement leurs familles, qui sont en train d'être visés. Donc c'est une technique de siège qu'on connaît quasiment depuis le Moyen-Âge. L'idée, c'est pas de faire sortir les civils pour qu'ils puissent ensuite s'alimenter. L'idée, c'est justement de les garder à l'intérieur pour désorganiser les défenses. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas croire les Russes quand ils vous disent on va créer des couloirs humanitaires qui vont permettre aux civils de partir. Non, les Russes ne veulent pas, et d'ailleurs ils l'ont prouvé maintes et maintes fois en bombardant des civils, d'Alep à Grozny en passant par Mossoul ou encore ou encore en Géorgie, qu'ils ne laisseront pas sortir les civils parce que ça fait partie de leur stratégie. Et par ailleurs, Irpin est une bonne manière de prévenir les Kiévois, c'est-à-dire les habitants de Kiev. Ah. Regardez ce qui peut vous arriver si vous maintenez, si vous vous défendez ou si vous...
Vous serez rasé comme ce qui est arrivé en banlieue.
Vous serez bombardé, tué et on n'aura pas de pitié.
Général Vincent Desportes, est-ce que c'est une... Parce que je dis ça parce que ce matin, on apprend qu'il y a un cessez-le-feu. Que Moscou décrète un cessez-le-feu. Est-ce que c'est là aussi une stratégie militaire que de souffler ainsi le chaud et le froid ? Un jour on bombarde, le lendemain on annonce un cessez-le-feu, donc la population se prend à espérer, et puis hop, on réattaque.
Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, la guerre est un acte de communication, qu'on la calme, qu'on l'accélère. On communique vers des dirigeants, on communique vers une population, vous l'avez dit. Et donc, on m'indique ça pour produire un effet psychologique. La guerre cherche à produire des effets psychologiques. Avec des bombes, avec des trêves, on produit un effet psychologique. Voilà. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais on peut dire aussi un tout petit peu l'inverse, c'est qu'il y a une autre stratégie militaire et qui pourrait être un peu celle de Poutine, qui est de dire « je vide ». Et on a vu dans les guerres, dans l'histoire de la guerre, on a vu les deux. Dans l'histoire de la guerre, c'est dit « vous choisissez maintenant, soit vous partez et vous êtes vivant, soit vous restez et alors on vous tuera tous ». Et donc, les deux sont possibles. Donc, pour vraiment prendre une ville, on peut aussi espérer que les gens s'en aillent. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose qui est fort juste. Ce sont les images d'un autre temps. Mais ce sont aussi des images d'un autre monde. Parce que ces images-là, on les a vues à Alep. Ces images-là, on les a vues en Syrie. Ces images-là, on les a vues en Irak. Mais ça nous semblait tellement loin, cette affaire-là. Alors que ça n'était pas nous. Et donc, je crois que ce qui s'est passé dans d'autres mondes, M. Assad contre son peuple, les États-Unis contre l'Irak, parce qu'au fond, on est dans une démarche qui n'est pas si loin de la démarche qui est entamée aujourd'hui, depuis 13 jours, par M. Poutine. Au fond, ce qui nous choque, c'est que c'est chez nous. Et quelque part, ça ramène l'Europe dans l'histoire pour lui faire comprendre qu'au fond, l'histoire n'est pas morte, contrairement à ce que pensait M. Fukuyama.
C'est pour ça, François Baudonnet, que jamais l'Union européenne n'a été aussi autant en pointe et que finalement, on voit l'Allemagne, qui était très pacifiste, se dire « Ah ben tiens, c'est chez nous ». L'Allemagne qui vient d'annoncer 100 milliards d'euros d'investissement dans son armée, qui veut augmenter aussi ses dépenses de défense à 2% du PIB. Il y a un « wake-up call », c'est évidemment un mot anglais, mais qui est peut-être approprié dans ce cas-là.
Oui, je crois que c'est un réflexe de survie, en fait. Tout simplement, l'Union européenne a compris que, si elle n'intervenait pas, si elle n'agissait pas, elle allait tout simplement mourir, que ça se passe effectivement sur son sol. Et c'est ce qui fait qu'au cours de ces 10 derniers jours, depuis le 24 février, depuis le début du conflit, elle a réagi si vite, étonnant tout le monde, et s'étonnant presque elle-même, en fait, j'ai envie de dire. Là, en revanche, depuis 48 heures, j'ai un peu le sentiment que l'Union européenne est en train un peu de ralentir, au contraire, parce qu'on nous annonçait vendredi des sanctions dans un nouveau paquet de sanctions, donc c'est le quatrième parce qu'il faut suivre, il y en a eu déjà trois. En fait, ce paquet de sanctions ne vient pas. Moi, ce que j'avais compris jusqu'à hier, c'est que ces sanctions seraient annoncées là, dans le courant de la semaine, parce qu'ensuite, au sommet européen qui va se tenir à Versailles, jeudi et vendredi, on va parler d'autre chose, on pourra peut-être y revenir. Là, les sanctions ne viennent pas.
Et pourquoi ? Parce qu'on a peur de Vladimir Poutine ?
Alors, je crois que derrière, il y a l'Allemagne. D'ailleurs, le chancelier Scholz l'a dit hier. Il a dit qu'il ne faut absolument pas toucher au gaz. Parce que l'Allemagne, avec 60% de dépendance au gaz russe, si on ferme le gaz, c'en est fini de nous. Donc là-dessus, il y a quand même... On voit jusqu'à présent, il y a une unité totale et incroyable, d'ailleurs, des Occidentaux, donc des deux côtés de l'Atlantique. Là, on voit que cette unité commence un tout petit peu, non pas à se fracturer, mais on va dire à se fissurer avec les États-Unis qui disent « Ben oui, attendez, il faut y aller, là, il faut vraiment arrêter d'acheter du... »
Et les Européens qui sont plus directement concernés.
Les Européens qui sont plus proches, plus directement concernés, qui seront plus directement impactés et qui disent « Oui, attendez, tout ça c'est bien joli, mais c'est nous qui allons être touchés en premier. »
Et des Européens qui veulent trouver une porte de sortie face à un Vladimir Poutine imprévisible et plus menaçant que jamais. On a appris donc qu'un centre de recherche nucléaire avait été visé par des obus russes. Fort heureusement, l'Agence internationale pour l'énergie nous dit qu'il n'y a pas de conséquences radiologiques. Mais tous ces centres nucléaires frappés, et bien évidemment, ça alimente la psychose. Jusqu'ici, je vous propose de voir ce reportage. Ça se passe chez nous, en France. Ce sont des Français qui vont dans les pharmacies et qui demandent des comprimés d'iode pour résister à une attaque nucléaire. Sujet de Florence Thiele.
Des comprimés d'iode destinés à prévenir les conséquences d'une irradiation. Inquiète face à l'actualité en Ukraine, cette Lilloise a décidé de s'en procurer.
Pour être... Vaut mieux être prévenu qu'avoir besoin de s'en servir.
Une demande accrue également dans cette officine près de Rouen. Plusieurs fois par jour, les pharmaciens font de la pédagogie. Le médicament composé d'iode stabilisé empêche l'iode radioactif de se fixer sur la thyroïde. Mais attention, prendre ce médicament en prévention n'est pas recommandé. Sur la Côte d'Azur, certains habitants cherchent également à s'en procurer. Pourtant, dans la région, aucune pharmacie ne vend de comprimés d'iode. En France, seules certaines officines sont habilitées à en prodiguer gratuitement, uniquement à la population vivant à moins de 20 km d'une centrale nucléaire.
Général Vincent Desportes, là encore, deuxième sidération, c'est incroyable de voir comment la terreur nucléaire s'invite au cœur de l'Europe. Il y a 15 jours, on nous aurait ri au nez si on avait passé ce genre de reportage.
Absolument. Alors ça, c'est le nucléaire de production d'énergie. Puis il y a les deux autres nucléaires qui sont au-dessus de nous. Nous menons une guerre sous risque nucléaire. Nucléaire stratégique, on le sait. C'est bien pour ça qu'on ne se bat pas d'ailleurs nous-mêmes en Ukraine. Et puis risque nucléaire tactique qui pourrait là arriver demain matin. Puisque une des sorties...
Alors attendez, c'est quoi la différence entre le nucléaire stratégique et le nucléaire tactique? Alors, moi, j'ai toujours pensé que le nucléaire, c'était défensif. C'est si on nous attaque... C'est la fin. Et est-ce que le nucléaire peut être offensif?
Bien sûr.
Vladimir Poutine a l'air de vouloir s'en servir comme d'une arme offensive.
Exactement, c'est dans sa doctrine. C'est dans sa doctrine. Je rappelle que ça a été très longtemps dans la nôtre et qu'on a arrêté ça, je dirais, au milieu des années 60, quelque chose comme ça. Mais dans la doctrine soviétique et russe, parce qu'au fond c'est la même, j'avance avec le conventionnel tant que je peux avancer et quand je suis vraiment bloqué, je tire une petite bombe. C'est des petites bombes, c'est 5-6 fois Hiroshima, hein, c'est pas énorme.
Mais ouais, on parle avec des guillemets, c'est parce que vous êtes coutumier de ça. Mais enfin,
quoi qu'il arrive, c'est monstrueux. Voilà. C'est monstrueux. Mais ça fait partie de la doctrine. Et ce serait une solution assez logique pour M. Poutine pour sortir du conflit.
Imaginez vous êtes tranquillement en train de nous dire que Vladimir Poutine pourrait recourir rationnellement à une bombe nucléaire de faible puissance.
Pourquoi est-ce rationnel? C'est rationnel parce que, admettons qu'il le fasse, il choisit un petit village, 5 000, 10 000 habitants, pas gros. Je tire nucléaire. Le monde s'arrête de respirer. Le monde est sidéré. L'OTAN, l'Europe dit « Ok, on arrête tout ». On va pas. On sait qu'il est devenu extrêmement dangereux. Les Ukrainiens sont japonisés, comme après Hiroshima et Nagasaki. Ils disent, OK, là, c'est trop gros pour nous. On arrête. Quant à M. Poutine, OK, il dit, très bien. Alors moi, mon gage, c'est de prendre l'Ukraine, de prendre la Crimée, etc. Donc là, il y a une possibilité logique pour M. Poutine d'arriver pratiquement à son but de guerre en une demi-heure. Et il a dans la tête, sûrement. On disait, il ne rentrera jamais en Ukraine. Et on ne peut pas dire qu'il n'appuiera jamais sur le bouton rouge parce qu'il a dit qu'il le ferait, donc il en est capable. Et alors, ça, c'est du tactique. D'autre part, c'est le nucléaire, mais c'est complètement autre chose. C'est l'arme de dissuasion. Mais il ne faut pas dire que l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Elle l'est dans le principe, mais c'est une arme qui existe et qui a vocation à être utilisée si nécessaire. Et il faut rappeler que dans la doctrine française, là, aujourd'hui, si nos intérêts vitaux sont menacés, ils ne le sont pas aujourd'hui, il est dans la doctrine française que de tirer une arme dite d'avertissement pour prévenir que si l'agresseur continue, alors on passera au volume supérieur. C'est dans la doctrine. C'est pour ça que nous conduisons une guerre sous menace nucléaire, il ne faut pas l'oublier.
François Baudonnet, on pensait que c'était un tabou, ça, que c'était quelque chose pour des illuminés que de parler d'armes nucléaires. Et c'est vrai que dimanche soir, on a beaucoup été surpris d'entendre Jean-Yves Le Drian révéler que nous avions fourni à l'Ukraine des comprimés d'iode à la demande des autorités ukrainiennes, comme si les Ukrainiens se préparaient à tout, y compris à une attaque qui pourrait devenir nucléaire.
Oui, alors c'est l'ambassadeur de France en Ukraine qui a révélé ça. Et ensuite, on a effectivement, à France Télévisions, on a posé la question à Jean-Yves Le Drian. Il l'a confirmé. Mais il n'a pas cité lui-même le mot iode. Il a dit oui, nous fournissons des médicaments. On sent qu'il était de toute façon très gêné, de la même façon qu'il ne veut pas dire, par exemple, ni le type, ni la quantité d'armes que l'on fournit, que la France fournit à l'Ukraine. On sent dans le gouvernement français une très très grande prudence, pour ne pas dire même une sorte de peur. Hein, vous savez qu'il y a quelques jours, par exemple, Bruno Le Maire avait parlé d'une guerre économique qui allait être menée contre la Russie.
Et totale.
totale, oui. Donc les mots étaient forts, et il y a eu tout de suite une réaction d'un officiel russe qui a dit « attention, parce que souvent dans l'histoire, les guerres économiques précèdent les vraies guerres ». Donc rétropédalage quasiment immédiat de Bercy en disant « oui, bon, d'accord, le mot était peut-être mal trouvé ».
Il y a eu un coup de fil de l'Élysée entre-temps ?
Il y a eu vraisemblable, enfin je ne suis pas dans le secret du gouvernement, mais je pense qu'effectivement, et depuis, on voit qu'il y a une très très grande prudence du gouvernement français de façon à ne pas ajouter de la provocation vis-à-vis de Vladimir Poutine.
Anthony Bélanger, là encore, on parlait tout à l'heure de cette sidération de choses qu'on pensait ne plus voir, mais c'est vrai qu'il y a eu des guerres en Afghanistan, il y a eu des guerres en Irak, jamais, me semble-t-il, on a évoqué ce mot nucléaire. Pourquoi là s'invite-t-il au cœur de ce conflit ?
Parce que c'est les Russes et parce que c'est nous. Mais c'est exactement ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous comme moi, en général, faisons partie d'une génération qui connaissons la grammaire de la guerre froide. Nos téléspectateurs, pas. Donc, ils n'ont plus, ça fait 30 ans qu'ils sont plus habitués à entendre parler d'armes nucléaires, et ils confondent à bon droit l'arme nucléaire et l'arme civile. Ils se souviennent de Tchernobyl pour une certaine partie d'entre eux. Donc, il faut faire très attention. Nous, on sait, je sais, pour l'avoir appris à l'école, pour l'avoir pratiqué avec les Russes ou d'autres, et pour avoir beaucoup commenté l'actualité internationale, que les Russes ont cette grammaire chevillée au corps et qu'ils savent donc graduer leurs menaces, qu'ils savent dire nous pouvons utiliser ou nous mettons nos armes nucléaires en système d'alerte et que par ailleurs les Européens comme l'OTAN, comme par exemple Jean-Yves Le Drian, peuvent dire mais nous aussi nous avons l'arme nucléaire et que tout ça n'implique pas leur utilisation. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même dire à nos téléspectateurs que les possibilités d'utiliser l'arme nucléaire, y compris tactique, vous avez raison de le souligner avec cette différence importante stratégique, deuxième rideau tactique, sur le terrain, eh bien, sont quand même très lointaines. Il y a quand même loin, très loin de la coupe aux lèvres en ce qui concerne, y compris...
Deux petites questions, Anthony Bélanger. Est-ce que la grammaire... Est-ce que Vladimir Poutine respecte toujours cette grammaire de la guerre froide ou est-ce qu'il s'en est affranchi ? Et deuxième sous-question, qui décide ? Est-ce qu'il peut décider seul ?
Non.
Ou est-ce qu'il a... Oui, mais est-ce que ce ne sont pas des fantoches totalement à sa botte ?
Alors, bonne question, mon capitaine. C'est justement ce qu'on essaye de comprendre en ce moment. Il y a une bonne vieille théorie en géopolitique qui s'appelle la stratégie du follow fou, de follow fort ou du follow faible, qui consiste en fait à dire beaucoup de choses, n'importe quoi. Et les Russes ont toujours fait comme ça. Ils mettent tout sur la table, y compris les choses qu'ils savent parfaitement ne jamais pouvoir obtenir, pour voir ce qu'il reste quand les autres auront fini de négocier. Ils sont aussi capables de faire monter, grimper les menaces, et il faut être extrêmement solide derrière pour tenir le choc. C'est ça, la grammaire de la guerre froide. Et au fond, Vladimir Poutine, qui a été formé au KGB dans les années 90, qui se souvient de ce que c'était que l'Empire russe, il a à la fois vécu le moment où, quand il allait voir un responsable allemand, c'était le petit doigt sur la couture du pantalon, et puis un an plus tard, être viré d'Allemagne de l'Est, il était cantonné à Dresde, sous les pierres et les tomates. Donc c'est un homme humilié, c'est un homme qui se souvient de l'Union soviétique puissante, qui se souvient de cette grammaire de la guerre froide, et qui l'emploie, et qui d'ailleurs... trouve, interlocuteur à son pied. Je rappelle que Joe Biden, qui d'ailleurs avait eu raison sur toute la ligne, qui avait expliqué au monde...
Mais pourquoi crie-t-il au loup ? En fait, ils avaient raison, les Américains.
Les Américains qui n'ont jamais abandonné cette grammaire de la guerre froide, avec un Joe Biden qui a été au cabinet de Carter, qui a été 40 ans membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui a 78 ans, c'est l'homme qu'il faut, au moment où il faut, qui sait parfaitement de quel russe il a en face de lui.
Général Desportes, on a toujours dit, puisque vous reparliez de la grammaire de la guerre froide, qu'on avait au Kremlin des gens responsables. Est-ce que ça vous effraie aujourd'hui de voir ce Vladimir Poutine dont l'Élysée s'interroge sur la paranoïa, dont Angela Merkel disait qu'il avait perdu pied avec la réalité, et quand on voit son entourage qui a l'air d'être complètement terrorisé par sa personne ?
Absolument. Je réponds tout de suite parfaitement d'accord avec vous. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, nous, intellectuellement, c'est de dire il ne le fera pas. C'est-à-dire qu'on doit rentrer ça dans notre équation. Et il peut le faire de la coupe aux lèvres, peut-être, mais il peut le faire demain.
C'est une ligne rouge, quand même, pour l'OTAN.
Non, parce que s'il tire nucléaire en Ukraine, nous, on ne fera rien. Hein. On fera rien. Ben, évidemment, on ne fera rien. On fera rien, puisque nous ne serons pas concernés. Sinon, on se serait déjà battus. Oui. Et bien sûr, je reviens. Ce qui fait peur, justement, dans cette affaire-là, et pour cette affaire de nucléaire en particulier, c'est que, comme vous l'avez dit, M. Poutine semble être coupé du monde. Il est coupé du monde. Et depuis le début de la guerre, il a fait une série d'erreurs de discernement. vous le connaissez, il n'a pas cru que le peuple se battrait, il a cru que l'humoriste était un clown, il a cru que son armée prendrait Kiev en une journée. Bref, il s'est trompé pratiquement tout le temps. Et donc, ça, ça fait peur. Parce que la grammaire rhétorique de dissuasion, c'est une grammaire qui demande beaucoup de clairvoyance, de solidité, de discernement. Si la crise de Cuba m'a permis d'y encore quelques années et beaucoup de nos téléspectateurs de naître, c'est parce que justement, d'un côté, Khrouchtchev et de l'autre côté, Kennedy, étaient des gens raisonnables et probablement pas coupés du monde. Et je rajoute que M. Khrouchtchev était tenu par un appareil d'État qui le virera 2 ans après, on s'en souvient.
Tout à fait.
Alors que M. Poutine, lui, est un homme qui est profondément seul et qui donc a, à mon avis, a une très mauvaise perception de la réalité. Et puis qui n'est pas entouré. On a vu, on le voit là, dans ses dialogues à distance avec ses conseillers qui sont à 100 mètres ou à 20 mètres, on voit bien qu'il n'est pas imprégné de la réalité du monde. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Il a une rationalité, mais elle n'est pas la nôtre. Et il est coupé du monde. C'est pour ça qu'il est dangereux.
François Baudonnet.
La question, je crois, qui se pose, effectivement, c'est de savoir jusqu'où, en fait, les Occidentaux vont laisser faire, même si, encore une fois, il y a des sanctions économiques très fortes, même si on fournit des armes, etc. Mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, et quand on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain, parce que visiblement, à Mariupol, comme c'est coupé, les communications sont coupées, il n'y a pas Internet, etc., on a des témoignages, on sait que ce qui se passe est terrible, qu'il y a peut-être des milliers, voire plus de victimes, que la ville est vraisemblablement totalement détruite, mais on n'en sait pas plus. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où les Occidentaux vont accepter. Est-ce qu'il va y avoir une forme d'accoutumance? En venant ici, tout à l'heure, j'écoutais la radio et j'étais assez surpris de voir qu'il y avait, pour la première fois depuis le début du conflit, il y avait beaucoup de titres français, d'actualité française, qui étaient avant la guerre en Ukraine. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de s'habituer à ce qui se passe? Est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce qu'à un moment, effectivement, qu'est-ce qu'il faut pour que l'OTAN, par exemple, intervienne? Il y a cette question à laquelle l'OTAN a répondu par la négative, de la no-fly zone autour de l'Ukraine.
Alors, c'est-à-dire,
est-ce qu'à un moment, les Occidentaux vont décider, bon, là, maintenant, il faut qu'on intervienne?
Je rebondis, vous dites, les Européens refusent d'aller faire la police dans le ciel ukrainien, puisque ça voudrait dire, pour l'OTAN, abattre des avions russes, ce que nous refusons de faire. En revanche, la question est posée de savoir, faut-il livrer des avions de chasse à la Pologne, à l'Ukraine? La Pologne l'envisage. Problème, je cite, Moscou a fait savoir que tout avion ennemi qui décollerait d'un pays voisin ferait entrer ce pays dans la guerre. En clair, Moscou considérerait que la Pologne déclare la guerre à la Russie. Voyez ce sujet cornélien de Loïc Delamornay et Ariel Monange.
Ces avions MiG-29 polonais vont-ils être bientôt repeints avec des cocardes ukrainiennes? Les négociations s'intensifient en ce moment. Plusieurs sources affirment que des pilotes ukrainiens habitués à voler sur ces appareils de fabrication russe sont déjà arrivés en Pologne pour en prendre livraison. Le tout avec la bénédiction américaine.
On a donné le feu vert pour ça. En fait, nous sommes en train de discuter avec nos amis polonais pour savoir comment nous pourrions compenser leurs besoins s'ils choisissaient de transférer des avions de chasse aux Ukrainiens.
Pour convaincre et rassurer la Pologne, les États-Unis lui ont proposé de remplacer les MiG-29 donnés à l'Ukraine par des F-16 américains modernisés, beaucoup plus performants. Un peu comme si un concessionnaire proposait de vous échanger votre voiture pour une plus neuve. Avec ses avions de combat, l'Ukraine récupérerait un énorme atout face aux Russes, une stratégie assumée par Washington.
Cela ne plaira certainement pas à Moscou de voir qu'on fournit des avions de combat à son adversaire. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire de notre côté. Cela comporte des risques, c'est vrai, mais les États-Unis estiment que ça n'est pas un acte de guerre direct contre la Russie.
Alors, général Vincent Desportes, faut-il livrer des avions de chasse et comment les apporte-t-on en Ukraine?
Alors, il y a deux choses différentes. D'abord, est-ce que c'est réellement faisable? Vous savez qu'on ne pilote pas un Sukhoi ou un MiG-29 comme un F-16. C'est-à-dire qu'il faut 2 mois pour un pilote pour arriver à piloter. Ce qui veut dire que si la Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie donnaient leurs avions, admettons qu'ils le fassent, ça leur supposerait que pendant 2 mois, ils acceptent d'avoir diminué leur puissance aérienne, qui serait évidemment vitale si M. Poutine traversait la pancarte OTAN. Donc, il faut accepter ça. Et je ne suis pas exactement sûr qu'il soit favorable à ça. La deuxième chose qui est intéressante, évidemment, c'est que ces avions devraient décoller, enfin, les Sukhoi et les Mikhaïl-9 décolleraient d'un aéroport otanien pour aller en Ukraine. Ça voudrait dire quoi ? Et alors là, on voit quand même une espèce d'ambiguïté des Américains qui nous disent « coupez le gaz, les gars, coupez le gaz ». Eux, ça leur coûte rien. Et on voit bien que c'est la même chose là. Et donc, M. Poutine joue très très bien. C'est un outil de découplage intéressant. L'Amérique dit « nous, on vous a donné les avions, mais rentre pas dans la guerre ». Alors que nous, les pays occidentaux, rentrent dans la guerre. Et donc, on voit, ils jouent probablement là sur la fissure. Non, là, on n'est pas en guerre avec l'Amérique. Mais on sera en guerre avec la Pologne. Je ne pense pas que ça va vraiment inciter la Pologne. Et on voit bien qu'il est en train de travailler sur le découplage entre l'Amérique et l'Europe.
Anthony Bélanger, qu'est-ce qu'on fait si un avion russe détruit un navire roumain ou ce type de dérapage?
D'abord, ça s'est déjà passé dans les jours.
Est-ce que ce conflit pourrait déborder sur un pays de l'OTAN?
D'abord, il y a déjà des incidents qui se sont passés aux marges de la Russie, de l'Ukraine. Il y a un navire turc, je crois, qui a été plus ou moins abîmé au large des côtes ukrainiennes en se rendant vers la Roumanie. Il y a un navire estonien aussi qui s'est bizarrement sabordé au large de l'Estonie. Donc, pour l'instant, on est en train de gérer, y compris des incidents qui pourraient être graves dans d'autres occasions. Par ailleurs, c'est vrai que livrer des avions à la... C'est vrai, c'est amusant parce qu'on n'a pas créé la même analyse. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi montrer que le brouillard de la guerre, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas du tout avoir la même vision du même événement. Livrer des avions à l'Ukraine, c'est effectivement, ça peut être considéré comme une co-belligérance. C'est-à-dire, en fait, qui fera rentrer la Pologne, la Slovaquie ou la Bulgarie dans la guerre, puisqu'en fait, ce sont des avions qui auraient été de ces trois pays maquillés pour devenir ukrainiens. Et on peut aussi penser que les États-Unis, qui sont en prise directe avec Vladimir Poutine, ont déjà expliqué à Vladimir Poutine par des canaux que nous n'avons auxquels nous n'avons pas accès. C'est bien normal, c'est comme ça qu'on faisait aussi pendant la guerre froide. C'est comme ça qu'on a conclu un accord avec Khrouchtchev, en expliquant quelles étaient les lignes rouges de l'OTAN et des États-Unis, et que ça n'en faisait pas partie, et qu'au fond, c'est simplement rétablir un équilibre. C'est-à-dire que prendre ce risque, les Américains ne le font. Je rappelle encore une fois que les Américains avaient raison sur toute la ligne. Les Américains ne le font que s'ils l'ont bien évalué. Il ne faut pas oublier...
Que un pays de l'OTAN livre des avions à l'Ukraine, ça ne ferait pas réagir Vladimir Poutine.
Ils ont pris ce pari, d'autant plus que je rappelle que quand même nous sommes liés par une alliance militaire et que si la Pologne est clairement attaquée, et c'est l'article 5, c'est le fameux article mousquetaire, hein, pour tous pour un, se met en branle et qu'à ce moment-là l'Europe entre directement en guerre. Il ne faut pas dire dans ce conflit que nous n'entrerons pas en guerre, même si on a dit la France n'est pas en guerre contre la Russie et même si l'OTAN explique qu'elle n'enverra pas de soldats.
Vous êtes tranquillement en train de dire, l'OTAN,
il ne faut pas laisser planer le doute, parce que c'est à ce moment-là, on peut rembarder les pactages et rentrer à la maison.
Mais si on ne fait pas planer le doute, ça veut dire qu'on accepte l'idée de rentrer dans une troisième guerre mondiale et dans l'escalade.
Elle n'est pas mondiale, c'est contre la Russie. Elle sera mondiale que si la Chine intervient.
Oui, non, mais elle n'est pas mondiale, la Chine sera à côté. Mais par contre, si Paris, Londres et Berlin sont détruits, même si ce n'est pas mondial, c'est quelque chose. C'est bien pour ça que depuis le début, on a dit que l'OTAN ne rentrerait jamais en guerre. C'est juste parce qu'on est sous menace. C'est un cataclysme nucléaire, non pas mondial, mais européen.
Personne n'a évidemment envie de tenter de...
Bien sûr,
bien entendu.
François Bedonnet, vous le disiez tout à l'heure, ô combien les paroles de Bruno Le Maire ont été mal perçues parce qu'elles pouvaient potentiellement être vécues comme une provocation ou engendrer une escalade à Moscou. On voit Emmanuel Macron, vous l'avez dit tout à l'heure, dit « nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe » et qui arrive, et c'est très surprenant, à maintenir une communication avec Vladimir Poutine. Ils s'entretiennent au téléphone. On se demande ce qu'ils peuvent bien se raconter pendant des communications qui durent des heures.
Des heures, oui.
Mais c'est capital, ça, de continuer à avoir une communication pour espérer une petite sortie de crise.
Oui, alors il y a effectivement des entretiens qui se poursuivent. Le dernier était dimanche matin. Et en fait, l'Élysée, après chaque entretien, débrief, comme on dit dans notre... jargon journalistique, et il explique aux journalistes comment ça s'est passé. Et donc moi, j'ai posé la question parce que l'entretien précédent, celui de dimanche, avait été particulièrement tendu, en tout cas sur le fond. Donc j'ai posé la question de savoir si c'était tendu également sur la forme. Est-ce que les deux hommes se sont affrontés?
Ils se tutoient, il paraît.
Alors, ils se tutoient, tous les deux. Hein, Vladimir Poutine tutoie également le président français. Et il m'a été expliqué qu'en fait, c'est presque plus inquiétant d'ailleurs, à mon avis. Pas du tout, il n'y a pas de conflit verbal entre les deux. Bon, d'abord, il y a le problème de traduction, donc ça prend, ils peuvent difficilement se couper la parole, etc. Mais ensuite, quand Vladimir Poutine, par exemple, parle de dénazification de l'Ukraine, quand il parle des drogués, du gouvernement ukrainien, etc., il le fait de toute façon avec un ton clinique, nous a-t-on dit. Voilà, il explique sa position, qui ne change pas d'un iota, d'ailleurs.
Ce n'est pas de la propagande, il est persuadé de ce qu'il...
Il est déterminé, il dit l'Élysée, il est totalement déterminé et totalement, vraisemblablement, persuadé du bien fondé de ce qu'il dit. Et c'est vrai que l'Élysée tient à garder ce canal de discussion ouvert, même si hier, on a vu, du côté de l'Élysée, un début d'agacement. Vous savez, parce que dimanche, il y a eu une discussion, c'était sur le nucléaire que la discussion avait lieu essentiellement, mais aussi sur l'humanitaire. Et hier matin, la Russie a annoncé qu'elle ouvrait ces fameux faux corridors humanitaires, puisqu'ils débouchaient vers la Russie. C'était soi-disant à la demande d'Emmanuel Macron. Et donc, dans la foulée, le président de la République a réagi publiquement, a donné une interview à la télévision en disant que c'était du cynisme et que c'était évidemment pas du tout ce qui avait été négocié.
Anthony Bélanger, je pense que Emmanuel Macron sait qu'il ne domptera pas l'ours de russe. Les Chinois. Les Chinois. Est-ce que les seuls qui pourraient faire entendre raison à Poutine, qui sème la terreur, est-ce que ce ne pourrait pas être Xi Jinping?
Alors moi, je ne crois pas. Je pense que les Chinois sont très embêtés, clairement, parce que pour une raison très simple, c'est que leur doctrine est pour le coup constante depuis quasiment 49, qui consiste à ne pas se mêler des affaires intérieures d'un pays et à respecter la souveraineté des États. Donc là, on a clairement la violation d'un... Et d'ailleurs, je rappelle que la Chine n'avait pas reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc en fait, ils sont clairement embêtés par ce que fait Vladimir Poutine. Ouais. Et en plus, ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas cru, par exemple, les Américains ont tenté de partager avec eux les informations dont ils disposaient, les mêmes informations qu'ils nous ont passées à nous.
Sur l'invasion de l'Ukraine.
Sur l'invasion de l'Ukraine imminente. Ils n'y ont pas cru. Ils ont été pris au dépourvu. On voit bien, d'ailleurs, dans les premiers balbutiements de la politique internationale, avec des commentaires qu'ont pu faire le ministère des Affaires étrangères chinois, qu'ils ont été un peu pris de court. Alors, pourquoi je ne crois pas? Parce que maintenant qu'ils sont sortis de la surprise et de la sidération, comme nous tous, ils ont clairement compris qu'il y avait peut-être un coup à jouer auprès de la Russie et que pour l'instant, il valait mieux coller à la Russie, pas forcément au Conseil de sécurité de l'ONU, ni même dans les instances internationales, mais en tout cas, comme posture face aux Occidentaux, parce que eux-mêmes ont à gérer d'autres types de problèmes. Et que ils ont compris que les Américains avaient, dans cette affaire de Russie, avaient plus d'intérêt à surveiller ce qui se passait dans l'Atlantique qu'à surveiller ce qui se passait en Europe. Et qu'en fait, ils veulent régionaliser le conflit. C'est-à-dire, ils disent quoi? Ils disent, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des Européens, de la manière que Taïwan est l'affaire des Américains et nous, éventuellement des Japonais, chacun dans son aire géographique. Et donc, d'une certaine façon, je ne suis pas sûr que ce qu'on attend ou qu'on espère des Chinois, ils le fassent. Par ailleurs, ce qui est vrai, c'est qu'ils pourraient, à moyen terme, si cette affaire continue, et qu'elle risque de continuer un petit peu longtemps, estimer qu'il est dans leur... Alors, je suis en train de contredire ce que je viens de vous dire, mais avec le temps seulement, ils pourraient décider que, à force de perturber les
liens... Le commerce mondial,
ils pourraient intervenir discrètement, pas du tout ouvertement, mais bien discrètement, pour dire, bon, il est peut-être temps, non pas d'aller à la table des négociations, mais de revoir
de calmer le jeu. Général Desportes, comment voyez-vous le jeu chinois là-dessus? Est-ce que, d'une certaine façon, ils se disent... C'est en miniature ce qu'on rêve de faire avec Taïwan. La Russie prend le contrôle de l'Ukraine où elle estime être chez elle. Et bien de la même façon, nous, on verra, c'est une répétition, mais nous aimerions prendre le contrôle de Taïwan que nous estimons nous appartenir.
Je vais répondre, je reviens juste un tout petit peu sur le dialogue Macron-Poutine. Ce qui est très intéressant, c'est que la parole de Macron est... pas la parole américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que les Russes reprochent énormément aux Américains d'avoir fait l'Irak, qui, quelque part, a beaucoup à voir avec cette guerre-là. Et par contre, nous avons dit non. C'est-à-dire que nous ne sommes pas rentrés dans ce que les Russes appellent une guerre colonialiste qui a créé 200 000 morts. Nous n'avons pas voulu...
Parler d'Irak, là.
Je parle d'Irak. Nous, le président Chirac et la vieille Europe, celle qui est solide aujourd'hui, ne s'est pas liée à...
C'est pour ça qu'il prend Macron au téléphone, parce que pour lui, les Français ne se sont pas fait embobiner par les Américains dans la guerre en Irak ?
Mais je crois qu'on a une position même morale, si vous voulez, morale, qui est différente de la position américaine. Je crois que c'est intéressant de se le rappeler. Mmh. On peut parler, lui, c'est pas lancé, nous, on n'a jamais, enfin, on n'a jamais fait ça, on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait récemment et on s'est dissocié des États-Unis. Je crois que donc il y a une posture un peu différente. Je réponds à votre question. Moi, je...
Non, mais si... du coup, ce que vous dites, parce que c'est intéressant, oui. Il y a un respect de Vladimir Poutine pour Emmanuel Macron, même en tant que représentant de ce pays qu'est la France, qui a une position moins alignée vis-à-vis de Washington, qui est le grand ennemi vu de Moscou.
Absolument. Absolument.
Une autre raison qui est, à mon avis, importante, c'est que la France est une ex-puissance coloniale et que la Russie se voit comme une puissance coloniale. D'accord. Et donc, elle parle d'ex-puissance coloniale à ex-puissance coloniale en espérant que la France comprendra le choc de décolonisation que la Russie a subi en 91 et la France 30 ans plus tôt. Et elle voit, d'une certaine façon, l'Ukraine, elle va, comme une Algérie, comme on regardait l'Algérie dans les années 60.
Sauf qu'elle considère que l'Ukraine est son berceau, pour le coup.
Et juste un mot, la France est aussi quand même à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne.
Sur le jeu chinois, comment les Chinois analysent-ils ce qui se passe selon vous?
Alors ces gens-là, d'abord, se vivent dans le temps long. Ils ne vivent pas dans le temps court comme nous. Ils vivent dans le temps long et puis ils ont lu Sun Tzu, ils le lisent tous les matins au réveil. Et donc, surtout Xi, bien sûr. Et donc ils ont bien compris que l'important pour eux est d'attendre que les conditions soient remplies. Donc ils sont en train d'observer. Regardez toutes les doctrines stratégiques chinoises, c'est... Regardons les fissures se créer, regardons les conditions se créer, et quand ce sera favorable, nous irons. Donc il est bien évident vis-à-vis de Taïwan qu'ils sont en train d'observer Joe Biden de manière très 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 sérieuse. Et d'ailleurs, ils s'aperçoivent que Joe Biden est quand même assez mou dans cette histoire. Et quelque part, Joe Biden est en train de leur donner peut-être des envies d'y aller, parce que finalement, alors que l'Amérique se prétend la grande défenseuse du droit et de la liberté, elle est assez molle dans ce conflit. Elle dit « Coupez le gaz, faites décoller les avions de chez vous, mais nous, non ». L'Amérique pourrait envoyer demain 4000 soldats en Moldavie, ce qui calmerait un appétit probable de M. Poutine. Il ne le fait pas. On pourrait envoyer demain, l'Amérique pourrait envoyer demain 50 000 hommes en Pologne, et il ne le fait pas. Donc on est beaucoup plus dans une gestuelle, dans une rhétorique que dans une action. Donc je pense qu'ils regardent. Et je pense que ça leur apprend effectivement ce que l'Amérique est prêt à faire. Ils comprennent en tout cas que l'Amérique n'est pas prêt à faire mourir un seul soldat américain, comme Trump l'avait dit, pour les pays européens. Et donc, si on n'est pas capable de mourir pour les pays européens, vieux alliés, berceau de l'Amérique, est-ce qu'on est capable de mourir pour Taïwan ? Et donc, ils regardent ça, je crois, avec beaucoup d'intérêt.
Alors, les sanctions, donc difficiles de combattre, et en tous les cas, on ne le veut pas, les Russes sur le plan militaire. En revanche, on l'a dit tout à l'heure, les sanctions économiques pleuvent sur Moscou. Dernière en date, c'est ce week-end, Mastercard et Visa qui ont annoncé la suspension de leur opération en Russie. Ben, je vous propose d'aller faire un tour en Russie pour voir les conséquences de ces sanctions économiques sur la vie du peuple russe, sujet de Catherine Rougerie.
C'est la dernière sanction en date contre la Russie. Les deux géants américains des systèmes de paiement Visa et Mastercard stoppent leurs opérations. Dans un communiqué, l'un des groupes indique:
en raison du caractère sans précédent du conflit actuel et de l'environnement économique incertain, nous avons décidé de suspendre notre réseau de services en Russie.
Concrètement, les Russes qui voyagent ne pourront plus utiliser leur carte à l'étranger et les touristes ne pourront plus utiliser leur carte en Russie. En revanche, pas de conséquences pour les Russes eux-mêmes en Russie.
En réalité, cette décision ne va gêner que les Russes à l'étranger et les touristes qui font des transactions en Russie, donc des paiements ou des retraits, mais pas les Russes qui vivent en Russie, puisque ceux-ci ont leur propre système de paiement, qui est l'équivalent de notre réseau CB, et qui est totalement indépendant de Visa et Mastercard. Donc ça ne va pas gêner le Russe de tous les jours.
Pour autant, la décision des deux leaders bancaires fait suite à une série d'autres. L'enseigne IKEA, qui possède 17 magasins et 3 sites de production en Russie, y a cessé toute activité, provoquant une ruée dans les rayons avant fermeture.
C'est très triste que la politique et l'économie s'entremêlent comme cela, mais j'espère que tout le monde s'en remettra.
C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça de ma vie. J'ai l'impression que nous sommes alignés pour acheter du sel en temps de guerre.
Même position pour Zara, le leader espagnol du vêtement. Le spécialiste de l'électronique Samsung a suspendu, lui, ses expéditions vers ce même pays. Autre annonce phare, celle des marques françaises de luxe qui ont décidé la fermeture temporaire de leurs magasins. Le groupe LVMH compte 124 boutiques en Russie, Chanel 17. Le groupe Kering emploie, lui, 180 personnes.
François Bedonnet, c'est quand même du jamais vu, là, cette avalanche de sanctions économiques et d'entreprises contre la Russie.
Et c'est tellement du jamais vu qu'on se demande comment faire plus, d'ailleurs. Comment
alors, embargo sur le pétrole et le gaz.
Voilà, on parlait du gaz ou du pétrole. Ultime. Après, il y a visiblement une réflexion autour du fait, par exemple, de bloquer tous les ports européens aux navires russes qui n'auraient plus le droit de rentrer. Mais c'est vrai qu'on se demande comment faire plus. Et c'est vrai que ça handicape quand même beaucoup plus la Russie que l'Europe, puisque ça, c'était un peu le fond du débat, puisque l'Europe est le premier partenaire commercial de la Russie, mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais. Donc c'est vrai que ça a un impact immédiat, extrêmement fort. On pourrait aussi parler de la banque centrale russe, mais ça a un impact immédiat très fort sur l'économie russe.
Est-ce que ça peut faire tanguer ou réfléchir Vladimir Poutine, ou est-ce que non? C'est absolument pas son affaire.
Il a une fenêtre de tir, excusez-moi l'expression, enfin, il a une fenêtre assez limitée. Ces sanctions commencent à mordre. Et quand on dit, par exemple, que Visa ou Mastercard qui retirent ses opérations de Russie, ça n'affectera pas les Russes, ce n'est pas totalement vrai. 74-75% des transactions en Russie passent par ces deux cartes. Je rajoute que Amex et PayPal ont fait la même chose. Amex, American Express et PayPal ont fait la même chose. Ça veut dire... ces cartes arrivent à échéance, les unes après les autres, et ne seront donc pas renouvelées. Quand on dit la Russie bascule vers vers la Chine, la réalité, c'est que les Russes, depuis 2014, parce qu'ils sont sous sanctions, achetaient énormément avec leurs cartes Visa et Mastercard de choses à l'étranger et qu'ils se faisaient ensuite livrer en France, comme tout bon acheteur globalisé. Ils achetaient leurs produits Samsung, leurs choses, parce que c'était moins cher, parce que c'était plus facile dans des pays étrangers pour ensuite se les faire livrer en Russie. Donc ça va les affecter tout à fait au quotidien. Quand c'est des entreprises comme Ikea ou Zara, qui ne sont pas des entreprises de luxe françaises, ça aussi affecte en grande partie le quotidien et la sensation qu'avaient les Russes jusqu'à présent de vivre dans un monde normal et globalisé. Donc c'est ça, c'est en fait affecter la vie qui va avec et qui donc n'ira plus de soi. Que cherchent les Européens. De la même manière que vous ne priverez pas les oligarques russes de la totalité de leur fortune, vous les embêterez au quotidien, c'est-à-dire vous les priverez de la vie qui va avec ces milliards.
Général Vincent Delporte, est-ce que il peut y avoir ces sanctions? On se dit oui, les oligarques ont perdu, ils ont sûrement du ressentiment et des raisons d'en vouloir à Vladimir Poutine. En même temps, en temps de guerre, il y a un patriotisme qui fait qu'on est derrière le chef. On se sent agressé par le monde entier, donc ça peut souder un peuple. On s'interroge toujours sur l'effet de ces sanctions.
On s'interroge. Alors, pour l'instant, ce que vous dites est parfaitement vrai pour les Ukrainiens, qui se regroupent autour de l'étendard, qui sont en train de créer leur récit national, qui reconsolident encore leur nation, qui est une nation très, très, très diversifiée, etc. Mais ils sont en train de consolider 17% de Russes, quand même, chez eux. Ils sont en train de faire tout ça. De l'autre côté, on voit un certain nombre de reportages qui montrent qu'au contraire. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est comme le vin, si vous voulez. Vous en prenez un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, tout va bien. Et au bout de deux heures, vous souffrez. Et c'est la même chose. Là, elles ont été prises, ces sanctions, puis elles vont porter petit à petit. Donc on n'est pas dans le temps de la guerre et le temps des sanctions n'a pas la même efficacité. Ce qui est sûr, c'est que les deux fragilités de M. Poutine, c'est d'une part le soutien interne, et d'autre part, la capacité morale de son armée à continuer à faire la guerre. Et c'est deux.
Vous avez des interrogations. Les troupes russes présentes en Ukraine pourraient s'interroger sur le bien fondé de leur action.
Moi, je regarde ce qu'on voit, les informations. On voit les soldats russes descendant hébétés, parlant russe aux Ukrainiens qui leur parlent russe, leur disant « qu'est-ce que vous êtes venus faire chez
nous ?» Tout le monde parle russe, ils se connaissent très bien.
Tout le monde parle russe. Les gens, on a vu des manifestations hier, les gens avec leur poitrine devant les chars russes et les drapeaux ukrainiens en disant « repartez chez vous ». Ils savent bien, ce sont des Slaves contre des Slaves. On a beaucoup de familles russo-ukrainiennes et inversement. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on aura un certain nombre de questions. C'est une armée d'appelés. C'est une armée d'appelés, majoritairement, et on est presque dans une guerre civile, quoi. Hein, c'est le frère contre le frère, le cousin contre le cousin. On n'est pas dans la bonne guerre, on est dans l'autre guerre. Et là, on est slave contre slave, chrétien contre chrétien. C'est d'ailleurs pour ça que M. Poutine essaye d'utiliser ses légions tchétchènes, parce que c'est un peu différent. Bon, et donc là, il y a une vraie faiblesse. Il faut regarder les fissures. Les fissures dans l'armée russe et les fissures dans la, dans la population russe, parce que les deux faiblesses et notre façon, au fond, d'arrêter la guerre, c'est d'élargir ces fissures-là, et c'est l'action des sanctions, évidemment.
Est-ce que la menace pour Vladimir Poutine, elle pourrait venir de l'intérieur d'un Brutus, quoi, hein, d'un coup d'État
Est-ce que quelqu'un pourrait le tuer
Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou en même temps, est-ce que l'histoire du peuple russe nous montre que finalement c'est un peuple résigné, qui a connu pendant 70 ans le communisme en baissant la tête et qui n'a pas la graine révolutionnaire du peuple français?
Alors déjà, on a beaucoup de mal quand même pour savoir ce que pense exactement l'opinion publique russe. On a tous vu ces images de manifestants et de manifestantes, d'ailleurs souvent des femmes, parfois âgées, se faire arrêter par la police dans les villes russes parce qu'elles manifestaient. On voit qu'il y a quand même un début de manifestation contre cette guerre. Mais pour le reste, comme vous le savez aussi, il y a cette loi qui punit de 15 ans de prison et qui touche d'ailleurs aussi les médias occidentaux qui sont présents en Russie. Donc on a quand même vraiment beaucoup de mal pour savoir ce que pense réellement le peuple russe, sachant que le peuple russe, du coup, il n'a comme information que ce que les médias officiels russes veulent bien lui donner. Donc est-ce qu'il va y avoir un soulèvement, alors soit un soulèvement populaire, soit, comme vous le dites, peut-être une révolution de palais ou plus? Je crois que c'est vraiment très très compliqué à savoir.
Juste pour revenir sur ce que vous disiez, non, les autocrates russes ont tous très mal fini. Les trois quarts des tsars ont fini sur le bout d'une pique, assassinés par leur camp. Non, pas du tout. On a beaucoup dit de l'Empire ottoman, c'est que c'était une autocratie tempérée par l'assassinat. Ça pourrait parfaitement s'appliquer à l'autocratie russe. C'est exactement. Il suffit de regarder. C'est un jeu de massacre, en fait. L'histoire russe, l'histoire des tsars, l'histoire de la montée au pouvoir, ne serait-ce que des Romanov, c'est un jeu de massacre en permanence. Donc pas du tout. Et d'ailleurs, c'est probablement...
Mais je parlais de la capacité du KGB à faire taire toute contestation pendant 70 ans.
Alors, par ailleurs, c'est probablement ça qu'a en tête aussi Vladimir Poutine. Il sait qu'il a 70 ans, qu'il joue un peu son va-tout. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même. C'est un pari incroyable, épouvantable qu'il a pris là sur l'Ukraine. Il a décidé, jusqu'à présent, il s'était exercé sur des petites nations, des petits pays, des bouts de territoire, ou des nations qui, épuisées par la guerre, je pense notamment à l'Irak ou à la Syrie, n'attendaient que des armes un peu modernes pour pouvoir se remettre d'aplomb. Je pense encore une fois à la Syrie et au bombardement russe des années 2015. Mais là, il s'agit d'une nation de 600 000 km². Je rappelle que la France est à peine plus petite. C'est donc grand comme la France, avec 40 millions d'habitants qui, en plus, effectivement, sont ressoudés derrière l'idée que l'Ukraine est leur patrie. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ils pensaient sincèrement entrer dans Kharkov sans problème. Car Kharkov pour les Russes, c'est la ville russe par excellence. Plus de la moitié de la population est soit russe, soit russophone. Et quand on demandait à la population, ils se sentent plus proches. Ils sont à 40 km de la frontière des Russes que de n'importe quelle autre nation. Eh bien, en fait, se sont rendus compte de l'incroyable résistance de Kharkov aux tentatives d'invasion russe. Et c'est pour ça que Kharkov est en ce moment puni et plombé par les bombardements russes.
Donc on s'est trompé en l'appelant le stratège pendant très longtemps.
C'est un excellent tacticien. Tout le monde le sait. On sait par exemple que là, il a attendu un an. Il prépare son coup depuis un an. Il a commencé par passer des accords avec les Saoudiens pour faire augmenter le prix du pétrole et du gaz. Ensuite, il a rattrapé la Biélorussie par les cheveux, on le rappelle. C'est probablement ce qui l'a convaincu qu'il avait fallu intervenir vite. C'était en 2020-2021. Et ensuite, il a tranquillement amassé ses troupes depuis 3 mois autour de l'Ukraine pour ensuite attaquer.
Général Desportes, peut-il reculer maintenant? Quelle est l'issue pour Vladimir Poutine? Comment se voit-il dans 10 ans?
Bien, écoutez, là encore, encore une fois, le parallèle avec Hitler est quand même très intéressant sur plein de domaines. Alors, Hitler, il est mort lui-même. Personne ne l'a tué malgré les tentatives d'assassinat. Et je suis sûr que M. Poutine est l'homme le plus protégé du monde aujourd'hui. Autre parallèle intéressant, Hitler a fait Guernica, vous savez, pour s'entraîner. Eh bien, M. Poutine a fait la Syrie, il a fait Alep. Hein, ça, c'est un parallèle qui est intéressant. Monsieur Hitler avait peur des microbes. Monsieur Poutine se tient à 300 mètres de ses interlocuteurs parce qu'il a peur. Et non, vous avez raison, il ne peut pas perdre. C'est bien pour ça qu'il est dangereux.
Et Hitler a mal terminé. Si ça peut au moins nous donner une fenêtre d'espoir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Je précise que ce soir, France Télévisions est mobilisée pour l'Ukraine avec Radio France, soirée spéciale à partir de 20h40, présentée par Leïla Kadour et Nagui, avec de nombreuses nombreux artistes, Clara Luciani, Julien Clerc, Eddy Depreto, ainsi que l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain sur France Info.